Radio Okapi. Le journal Jocelyne Moussa Opondé.
Tête à tête hier à Goma entre le ministre de la Santé de la RDC et celui de l'Ouganda, la rencontre a porté sur la riposte contre la maladie à virus Ebola en RDC. Autre rencontre, c'est celle de la chef de la mission onusienne en RDC avec la majeure partie des candidats présidents de la République et autres acteurs clés du pays. Leïla Zerougui appelle à des élections crédibles et apaisées. Docteur Adela Tungula est l'invité de la rédaction ce matin. Il est médecin inspecteur provincial ad intérim de l'Achopo. Il va s'exprimer sur la sensibilisation à Kisangani sur la maladie à virus Ebola par Caritas Développement. Bonjour à tous. Tête à tête hier mercredi à Goma entre le ministre de la Santé publique de la RDC et son homologue de l'Ouganda, Oli Ilunga et Jane Ruth Acheng ont, au cours de cette réunion ministérielle bilatérale, échangé des informations sur la riposte contre l'épidémie à virus Ebola en RDC. L'objectif est de renforcer les liens de coopération entre les deux pays voisins dans le domaine de la santé publique, notamment sur le plan épidémiologique. Le ministre congolais de la Santé s'est réjoui de cette collaboration. Le docteur Oli Ilunga est au micro de Bernard Dindiambou.
Cette rencontre était aussi une opportunité pour nous de continuer à renforcer les liens qui nous unissent. Nous devons toujours intensifier notre collaboration sur le plan épidémiologique et cette collaboration doit aller au-delà de la maladie à virus Ebola. Nous sommes donc deux pays voisins. Il y a beaucoup d'échanges entre nos deux pays. Cette rencontre est vraiment une opportunité pour que les responsables de la santé en Ouganda puissent rencontrer les responsables de la santé ici à Kinshasa et qu'on puisse établir les liens. Nous avons également identifié trois domaines spécifiques de collaboration dans le cadre donc de cette épidémie. La surveillance épidémiologique, voir comment est-ce qu'on va gérer les alertes de part et d'autre. Le deuxième point, c'était le point d'entrée. Je crois que ça reste vraiment un élément central de la collaboration, vraiment s'assurer que l'épidémie ne traverse pas la frontière et que les deux équipes au poste frontalier collaborent intensivement.
Toujours dans le domaine de la santé, sachez qu'ici à Kinshasa, le centre médical Kiné Congo organise à partir de ce jeudi trois journées portes ouvertes de 8h à 16h. La population kinoise est invitée aux consultations gratuites sur la kinésithérapie, la rééducation, la réadaptation et le massage thérapeutique. Le centre médical Kiné Congo est situé au local 6 du stade de Martyr. On écoute Dr Guy Mutamba qui donne d'autres précisions au téléphone de Richard Junior Kamunga.
Essentiellement, nous soignons tous les troubles musculosquelettiques, c'est-à-dire des muscles, des os, des articulations, donc tels que les lombalgies, les douleurs du dos, l'arthrose, tels que les fractures, tels que les problèmes de paralysie également, qui est plus du côté neurologique. Ça, c'est ce que nous soignons essentiellement, mais nous avons un côté généraliste. C'est-à-dire que chez nous peut venir n'importe quelle personne avec n'importe quelle pathologie, n'importe quelle maladie. Et nous sommes spécialisés dans la rééducation des séquelles d'AVC, donc l'hémiplégie. Nous sommes spécialisés en ce qui concerne le diabète de type 2. Nous soignons le diabète de type 2. Nous soignons également les migraines. Au stade des Martyrs, donc c'est bel et bien à l'intérieur du stade même. Vous demandez le local 6, le centre médical Kiné Congo.
Je le dis, je l'ai dit en titre, Leïla Zerougui appelle à des élections crédibles et apaisées à la date du 23 décembre 2018 dans un climat apaisé et plein de confiance. À quelques trois semaines des élections générales en RDC, la chef de la MONUSCO a rencontré quasiment tous les candidats à la présidentielle et d'autres acteurs clés du pays. Objectif, faire un plaidoyer pour que les élections se tiennent dans un processus crédible. Écoutez à ces sujets la porte-parole de la MONUSCO, Florence Marchal, a s'exprimé hier mercredi au cours de la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa. Ces propos ont été recueillis par Jean-Pierre Lali Coco.
Alors que la campagne officielle pour les prochaines élections présidentielles et législatives est en cours, la représentante spéciale du secrétaire général poursuit son plaidoyer pour que les élections se tiennent comme prévu dans le cadre d'un processus crédible. À ce jour, elle a rencontré quasiment l'ensemble des candidats à la présidentielle ainsi que d'autres acteurs clés comme le président du comité national du suivi de l'accord du 31 décembre 2016, Joseph Olenga Koy, et le président du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication Tito Ndombi. La période actuelle de campagne est une étape clé dans le processus électoral au cours de laquelle les candidats ont la possibilité de présenter leur programme aux Congolaises et aux Congolais afin de leur permettre de choisir de façon documentée les hommes et les femmes qui les représenteront au niveau national et provinciale dans les prochaines années. Il est en conséquence important de veiller à ce que cette campagne se déroule de façon pacifique et dans le respect des opinions de chacun.
Par ailleurs, la MONUSCO indique que les opérations militaires qu'elle mène conjointement avec les FARDC contre les ADF se poursuivent au Nord Kivu. La mission onusienne fait état d'un bilan qui s'élève à 7 morts, 13 blessés et 2 disparus, dont Serran. Revenons sur les élections pour dire que Martin Fayulu, candidat de la coalition Lamouka à l'élection présidentielle du 23 décembre, a lancé sa campagne électorale hier mercredi dans la ville de Beni, dans le Nord Kivu. Il promet à la population de Beni la fin de l'insécurité dans cette région et l'instauration de l'état de droit s'il est élu chef de l'État. Martial Papimukeba pour d'autres détails.
Après avoir atterri à l'aéroport de Mavivi de Beni aux environs de 17h35 heure locale, Martin Fayulu a dû faire face à une grande foule de personnes venues l'accompagner de l'aéroport au rond-point Nyamwisi de Beni où il a tenu son meeting. C'est aux environs de 19h heure locale qu'il va atteindre ses lieux où les militants de plusieurs partis politiques de l'opposition et plusieurs couches de la population l'attendaient depuis 9h du matin. Martin Fayulu a centré son discours sur la fin de l'insécurité à Beni s'il est élu chef de l'État en installant une base militaire dans la région, l'instauration d'un état des droits, la réconciliation nationale, la relance de l'agriculture dans les pays, la construction des routes, l'accès par la population à l'eau et l'électricité, la libération des prisonniers politiques ainsi que le retour au pays des opposants Moïse Katumbi et Mbusa Nyamwisi. Martin Fayulu a en fait rejeté l'utilisation de la machine à voter lors des élections du 23 décembre prochain. Signalons qu'il est attendu ce jeudi dans la ville voisine de Butembo. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, les candidats députés de l'UNC et ceux de l'UDPS au prochain scrutin du 23 décembre ne savent pas battre campagne. Les deux formations politiques auxquelles ils appartiennent affirment n'avoir pas suffisamment de moyens financiers pour permettre à leurs candidats de se lancer véritablement dans la campagne. Vital Kamerhe, président de l'UNC et directeur de campagne de Félix Tshisekedi, l'a reconnu hier à Goma au cours d'une conférence de presse. Par ailleurs, il met en garde la CENI à qui il demande de prouver qu'elle est réellement prête pour la tenue des élections le 23 décembre prochain. Nous savons et nous sommes au courant de la réalité, déclare Kamerhe. On l'écoute au micro de Gabriel Ouaménia.
Nanga dit qu'il n'a pas de problème, tout est prêt. Alors il va nous prouver que les choses sont prêtes. Et je voudrais attirer son attention sur une chose. S'il y a un seul bureau de vote qui n'a pas de machine, qui n'a pas des équipements, il doit savoir qu'il aura trahi la nation congolaise. Qu'il retienne ça. Parce que nous savons et nous sommes au courant de la réalité.
Vos candidats sont bités au problème des moyens pour battre leur campagne.
Et c'est vrai, nous sommes des partis pauvres. Vous voulez que nous vous disions quoi? Je ne suis pas opérateur économique, Fexil, ce n'est pas opérateur économique. Mais ceux qui ont des moyens qui s'en vantent, c'est les moyens de l'État. Le peuple va les rejeter. Comment voulez-vous que le peuple puisse voter pour quelqu'un qui a pris l'argent qui lui était destiné?
Nous l'avons appris hier au Sud Kivu. L'auditorat militaire garnison d'Uvira a arrêté le week-end dernier un condamné de la justice poursuivi récemment par la cour militaire de Bukavu pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La MONUSCO, à travers sa section d'appui à la justice, est sollicitée par la société civile d'Uvira pour plaider auprès du commandement militaire afin que le fugitif soit remis entre les mains de la justice militaire. Retour sur les faits avec vous, Emmanuel Elamechi.
Le lieutenant-colonel Mabia Langoma a été rattrapé par les FARDC à Uvira dans un hôtel où il s'est caché. Le fugitif s'est dirigé vers Lubumbashi après sa fuite de Calais avant sa condamnation à perpétuité par la cour militaire la semaine dernière. Alors que le prévenu se présentait à toutes les audiences en chambre foraine à Calais, seulement le jour du prononcé que l'officier supérieur de l'armée était absent, ce qui avait provoqué des inquiétudes auprès des victimes soutenues par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le BCNUDH, le PNUD, la Fondation Panzi et l'ONG Trial. Le colonel Mabia Langoma, Alors, commandant du bataillon spécial d'intervention de la 10e région militaire, était reconnu coupable des exactions commises à Kalehe en juin 2013. Pillage, viol massif, meurtre et incendie d'une centaine de maisons dans les villages de Mirenzo, Chirimiro, Mubuku et Katasomwa. La cour militaire du Sud Kivu avait ordonné sa peine avec arrestation immédiate à la destitution des FRDC aux hommages et intérêts avec la RDC comme civilement responsable. Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Bukavu, Radio Kapi.
L'invité.
À Kisangani, la Caritas Développement a organisé hier une séance de briefing des animateurs du réseau sur la problématique de la maladie à virus Ebola. Il s'est agi notamment de religieuses, des prêtres et des agents pastoraux. Cette séance a été animée par la Division Provinciale de la Santé et l'UNICEF. Pour en parler, nous recevons le médecin inspecteur provincial ad intérim de la Tchopo, le docteur Adelard Lufungula. S'entretient avec Jacques Mkonkole.
Docteur Adelard Lufungula, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous avez animé une séance de briefing à l'intention des agents pastoraux sur la maladie à virus Ebola. Quel message avez-vous transmis à ces agents?
Concernant le premier point, on a vu que si la population de la Tchopo et Kisangani en particulier sont considérées comme population à risque à travers la RN4, alors les agents pastoraux sont considérés comme la cible secondaire, les gens qui ont de ces victimes-là dans leurs églises, et c'est important pour eux de connaître le message, de connaître les informations sur la maladie à virus Ebola pour qu'ils puissent nous aider à sensibiliser la cible qui sont leurs fidèles dans les églises.
Vous pensez que en associant les agents pastoraux, les prêtres, les religieux, le message peut être efficace?
Oui, évidemment, parce que si vous regardez par rapport à la cible, on s'est dit que quelle que soit l'analyse des cibles qu'on peut faire pendant les épidémies, il s'avère que la population se trouve dans la communauté. Les autorités politico-administratives et les agents pastoraux, c'est-à-dire les religieux, sont impliqués dans toutes les activités. Et nous pensons que si vous regardez le nombre de gens qui se réunissent chaque dimanche dans les églises, ça fait quand même un bon nombre de la population. Si les gens pastoraux, c'est-à-dire le serviteur de Dieu, sont informés par rapport à la maladie à virus Ebola, s'ils sont impliqués dans la prévention de la maladie à virus Ebola, alors et aussi à leur tour, ils pourront sensibiliser le fidèle sur la maladie à virus Ebola. On étendra la couverture des personnes qui sont informées, ce qui contribuera à la prévention.
Y a-t-il quelque chose à craindre par rapport à cette maladie dans la ville de Kisangani?
Oui, évidemment, nous confirmons qu'à Kisangani, il n'y a pas encore l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Aucun cas confirmé n'est signalé à Kisangani. Il y a des cas suspects que les gens à tort ont publiés dans des réseaux comme si c'était un cas de la maladie à virus Ebola. Mais ce que nous pouvons craindre est que l'épicentre qui est à Beni, qui est à Komanda, et cet épicentre-là est à contact permanent avec Kisangani. Chaque jour, il y a des véhicules qui entrent, qui sortent, qui traversent par l'épicentre. Ceux qui viennent de Ouganda passent par Kasindi, Beni pour Kisangani, ceux qui viennent de Mahagi, ceux qui viennent de Aho passent par Bunia, Komanda. Et aussi longtemps que Kisangani, la Tchopo reste à contact permanent avec cet foyer épidémique, alors la Tchopo continue à être une zone à risque. C'est pourquoi nous devons renforcer les mesures de prévention pour que nous ne savons pas. Si nous baissons le bras, c'est probable qu'à travers cet contact qui est intense, ce contact qui est intense avec le foyer épidémique, on puisse enregistrer des cas à Kisangani.
Que pouvez-vous dire à la population par rapport aux signes? Comment reconnaître cette maladie?
Par rapport à la population, nous signalons que la population doit être en veille. La population doit savoir que l'épidémie d'Ebola existe. La maladie Ebola, c'est une maladie réelle. Ce ne sont pas de rumeurs. Ça existe et c'est une maladie qui est en train de tuer. Alors, nous tous, nous devons renforcer les mesures de prévention. Les signes de la maladie, premièrement, il faut déjà considérer tout celui qui s'est ajourné pendant la zone épidémique à Beni, à Bunia, à Mambasa, partout là. Et dès qu'ils viennent ici à Kisangani et ils commencent à présenter la fièvre, la fatigue intense, à partir de là, il faut déjà alerter rapidement le professionnel de santé. Même s'il n'y a pas encore de l'hémorragie, mais chaque cas de fièvre, chaque cas de malaise, vous prenez le médicament, il n'y a pas d'amélioration. Et quand vous cherchez dans les antécédents, la personne s'est ajournée dans le foyer, dans la région épicentrique, là, alors en ce moment-là, il faut nous alerter. Deuxièmement, nous devons renforcer le mesure d'hygiène, les lavages de mains. Dans le briefing, il a été démontré que le virus peut être tué par le simple lavage de mains à l'aide des détergents, peut tuer le virus. Alors, tous ces mesures-là, nous devons les appliquer chez nous, à la maison, dans nos institutions. Troisième, on dit que lorsque vous trouvez un cadavre d'un animal, mort dans la forêt, il ne faut pas le toucher parce que si on ne connaît pas de quoi il est décédé, alors il faut s'abstenir de tout cela. Ne touchez pas un cadavre qui est mort de la maladie à virus Ebola, il faut signaler les agents de santé qui viendront pour organiser les enterrements sécurisés. Si nous renforçons ce mesure de prévention dans nos maisons, dans nos institutions, dans nos communautés, alors nous contribuerons à mettre la barrière à la maladie à virus Ebola pour la Tchopo et la ville de Kisangani.
Docteur Lofugula, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur.
Voilà, c'est par ici que prend fin ce journal mis en onde par Alain Ngoï. Merci à vous tous de l'avoir suivi.